connecté au live?
Ah bah oui.
C'est bien.
Voilà.
C'est toi la clé.
Bah oui.
Voilà.
Alors, en fait, les gens vont dire, ah, le mec like
Il
sa
se
photo, il
regarde,
regarde
il
ses propres
s'auto-regarde.
lives. Mais quel melon.
Je sais pas.
Bon, ok, apparemment, bon. On va commencer. Du coup, moi, je fais un petit truc à caméra. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de l'Impro Côte d'Azur. Il est plus nouveau, en fait. Ça fait la quatrième, mais bon, j'aime bien le dire que c'est nouveau encore. Tant qu'on n'a pas plus d'auditeurs, de podcasts, ce sera encore nouveau. Dans ce podcast, nous allons parler d'un improvisateur, qui est donc un improvisateur à l'Impro Club Côte d'Azur. Il sera question de son parcours, de ses envies d'impro et de son passage à l'Impro Club. Aujourd'hui, nous accueillons Cédric Fernandez, qui joue régulièrement à l'Impro Club de Bordeaux, qui a un spectacle que j'ai noté plus bas, qui s'appelle Memory. Voilà, qui joue régulièrement donc à Bordeaux et un peu partout en France. Voilà. Bonjour Thomas. Bonjour. Regarde, tu vois, j'ai fait un copier-coller de Thomas.
Ouais.
Dommage, raté.
Mais je peux répondre à la place de Thomas Pizzotti, qui est un homme que j'ai connu, puisque nous avons partagé le même appartement, la même maison pendant un an. Ce qui veut dire que ça crée un petit peu d'intimité.
Ouais, c'est pour ça, en fait. Il y a une telle intimité. J'ai senti du parfum de Thomas dessus.
De la barbe.
Et aussi le fait que je lis bêtement, des fois, que ça marche à tous les coups. Bonjour Cédric, donc du coup, ouais, alors la même question que j'ai posée à Thomas, du coup, pour faire un petit peu, et un peu au précédent aussi, c'était une définition de dictionnaire, comment ça se formulerait?
Si j'étais une définition de dictionnaire?
Ouais,
wow.
Comment tu la définirais? Toi qui joues avec les mots, du coup, finalement.
C'est bien, mais écoute, je dirais artiste. En vrai, et sans être au développement de ça, parce que ça, comme ça, c'est une enveloppe suffisamment large pour inclure l'intégralité de mes activités. C'est un peu comme ça que je les prends, quelle que soit d'ailleurs leur nature, les activités de formation, les activités d'audique, les activités de comédien. Pour moi, il y a toujours un enjeu de type artistique. Comment je le fais? Pourquoi je le fais? Et dans quel style et quelle trace j'ai envie de laisser si je le fais?
Alors, du coup, tu me questionnes là, parce que du coup, un artiste dans le monde de l'audit qui est censé être assez rigoureux, comment on retrouve l'artiste là-dedans, en fait? Où on dit chapeau l'artiste à la fin quand tu pars?
Oui, voilà, c'est ça, ouais. Non, en réalité, c'est... ça peut être très connecté, d'ailleurs, au milieu de l'improvisation, parce que l'audit, c'est un système très contraint. Il y a des normes, des règles et des choses à respecter. Et en fait, c'est comme en impro, il y a un cadre, et comment on se retrouve libre dans ce cadre? En fait, si on avait vraiment zéro contrainte, je sais pas si ce serait si intéressant de se jouer du risque, de la façon dont on va répondre de façon originale à une contrainte particulière. Donc, au final, il y a une connexion très forte entre l'audit et l'impro. Après, bien entendu, selon les goûts et les couleurs, il y a des gens qui vont aimer les improvisations sans limite ou aller chercher quelque chose de très organique. D'autres vont avoir une affinité avec des systèmes particulièrement contraints, beaucoup de codes, un décorum vraiment très installé et à respecter de façon rigoureuse. Mais à l'intérieur de ça, de toute façon, on retrouve une forme de liberté.
Est-ce que du coup, en fait, en travaillant avec le risque, en fait, est-ce que du coup, tu as pris goût au risque de l'impro, en fait, est-ce que le risque de l'impro, c'est un risque maîtrisé comme on peut voir avec des audits?
C'est le parallèle peut être vite fait. Est-ce que j'ai pris le goût du risque? En moi, la vraie dimension de l'impro, qui m'a, je pense, même littéralement changé la vie, c'est pas tant la question de la maîtrise du risque que sa gestion. À réaliser qu'en réalité, on ne maîtrise pas grand chose. Il y a des choses qui sont vraiment sous contrôle, comme je peux avoir un impact direct sur ma façon de respirer, ma façon d'écouter. Et en réalité, après, j'ai une zone d'influence. Je pouvais aller suggérer à mon environnement le type de réponse que j'attends, mais il restera toujours une part d'inconnu sur le fait que mon environnement réagisse comme je veux ou comme il a décidé de réagir. Ça, je la maîtrise pas. Et plutôt que d'essayer d'augmenter mon niveau de maîtrise sur ces choses-là, mais c'est le lâcher prise en réalité.
D'accord. Au final, est-ce que du coup, d'où vient en fait, qu'est-ce qui fait que du coup tu t'es mis à faire de l'improvisation en fait? Est-ce que c'est lié à un cadre qui était trop rigide ailleurs? Qu'est-ce que tu as trouvé dans le théâtre d'impro?
Le démarrage pour moi, il a été quand j'étais prof en école d'ingénieur sur les systèmes de management, donc des systèmes très contraints, normés. J'avais fait intervenir un collègue à moi qui s'appelait Emmanuel. Salut Emmanuel. Il était spécialiste de communication, gestion de conflit, et c'était des compétences que j'avais pas du tout à l'époque, mais dont j'avais tout de même déjà perçu l'importance pour les étudiants. Et donc, comme j'étais à la pédagogie sur cette option-là, je l'ai fait intervenir dans l'option, et il m'a dit, ah, c'est marrant, l'étude qui les étudiants au départ fait ça en un propre écrit plutôt que d'un arbre de la force de la loi dernier. Et il me dit, on fait ça en impro, tu devrais essayer, ça devrait te plaire. Donc moi, je suis arrivé à l'impro avec cette idée de découvrir l'écoute en réalité. C'était pas mon plan.
D'accord. Du coup, tu t'es dit qu'en travaillant en fait l'écoute au niveau théâtral, tu allais pouvoir le réincorporer au niveau professionnel?
Sans doute, en fait, même sans forcément avoir cette perspective à moyen long terme, ce qui s'est passé, c'est que j'ai quand même ressenti un appel. Je savais que j'avais besoin de ça, que c'était une de mes grandes limites, j'avais beaucoup trop de certitudes, beaucoup trop tôt dans la vie, et que en gros, maintenant, je suis plutôt sur la pente inverse. J'espère que j'en aurai
De
le
moins en
moins
moins.
possible. En fait, c'est ma hantise, j'ai peur de devenir con. C'est marrant, après cette année.
Donc devenir vieux, voilà.
Depuis en vieillissant, je serais trop sûr de certaines choses.
Et du coup, en fait, c'est quoi l'impôt? Qu'est-ce que ça représente pour toi, l'impôt pour toi?
Alors, j'ai une réponse technique et une réponse émotionnelle. La réponse technique, c'est... Pour moi, l'impro, c'est une certaine quantité de choix qu'on va faire à la dernière minute. Cette quantité de choix, ça peut être un choix de mise en scène, un choix de texte, un choix d'interprétation. On peut se dire, soit on a un système très contraint dans lequel on limite cette liberté-là à l'interprétation, le texte, soit on peut vraiment tout improviser, c'est-à-dire le choix de mise en scène dernière minute, le choix d'écriture dernière minute, le choix d'interprétation dernière minute. Ça, c'est la réponse technique. La réponse émotionnelle, c'est l'impro, c'est devenu ma vie. Mais c'est une philosophie. Hein. Pour moi, c'est vraiment un code de conduite. Où je dis, tant que je sais faire ça, je me préserve le plus longtemps possible de la connerie. Ouais,
Est-ce que c'est quand même, est-ce que c'est pas de la connerie maîtrisée quelque part?
non, je pense vraiment. Après, si la connerie est une dimension de l'humanité, donc on se départira jamais de ce qu'il pense, oui. Sinon, en réalité, ça amène suffisamment de souplesse pour avoir des relations intelligentes.
Et du coup, en fait, tu dis que c'est une philosophie de vie, en fait, et du coup, est-ce que tu l'appliques du coup dans tes sorties, tes week-ends, de ta vie de tous les jours, ou peut-être ta manière d'appréhender les gens?
Enfin, tout ça n'a virtuellement aucune limite.
Oui,
Ouais, c'est
non, c'est vrai.
ça. Alors après, je dis, ça n'a aucune limite virtuellement, ça. Ça se confond quand même à un environnement. Il y a des règles, il y a des codes. Je choisis pas, c'est pas moi qui choisis. Enfin, je peux choisir l'environnement dans lequel j'évolue. Mais une fois que j'évolue dans cet environnement-là, il a ses règles, il a ses codes. Et c'est sûr que s'inscrire dans la ligne de ces règles-là ou en opposition, ça n'aura pas le même impact. Mais une fois dedans, écoute, acceptation, construction.
Je vois que tu es très marqué en tout cas par des concepts en fait de structures fortes pour qu'à l'intérieur il y a la création. Est-ce que ça viendrait en fait de ta formation, en tout cas de tes débuts à l'impro?
Non.
Question orientée.
Oui, non, oui, mais ça pourrait. En fait, ça remonte plus loin que ça, dans une éducation dans laquelle j'aime mes parents qui m'ont éduqué dans un système de contraintes assez fortes. Et on va dire, voilà, je suis né d'une fratrie de quatre, deux petits frères, une petite sœur. avec la pression d'avoir à montrer l'exemple, ce qui est une pression d'aîné, hein, indépendamment même des milieux dans lesquels on grandit. Et qui fait que, voilà, j'ai très tôt été imprégné par l'exigence interne d'être bon élève, y a rien qui dépasse, je montre l'exemple. Et donc, de ce système contraint, j'ai tordu ma personnalité, très clairement, très tôt. Et j'en ai perçu les limites assez tard. Et l'impact que ça a pu avoir sur ma façon de prendre les choses, la souplesse, la légèreté dont j'avais fondamentalement besoin, ça a fait que bah, l'impro est arrivé dans ma vie au meilleur. Ça,
Libération.
pas de fou, mais libération, non, sans faire n'importe quoi. Parce que l'impro, c'est pas n'importe quoi. Il y a des valeurs, il y a des principes qui permettent de retrouver de la légèreté en ayant la certitude que tu fais de mal à personne, en fait. Et ça, c'est vraiment.
Vraiment.
Ah, ben, moi, enfin, philosophie dit, hein.
Et en fait, quand je t'ai posé la question, je pensais surtout à ton passage à la liqueur, en fait.
Ah oui.
C'est pour ça. Donc, du
Oui,
coup, tu vois, question orientée par rapport à ça.
ben, si, la liqueur, gros héritage, ligue fondée par Pierre Martinet, qui a été le maître de cérémonie de la LNI pendant 30 ans, c'est lui qui a créé le rôle. Donc, il y avait, c'est sûr, un héritage à assumer qui s'assumait on a parlé d'orthodoxie. C'était ça, hein. Le match a beaucoup évolué au Québec, donc par les inventeurs du match, ça a beaucoup évolué, et pourtant, nous, on s'estimait un petit peu les gardiens d'un temple, dans une forme de traditionnalisme à l'ancienne, mais qui a son charme, un peu comme, bah, c'est bien qu'il y en ait qui fassent les pionniers et qu'on soit dans l'exploration et qu'on aille chercher d'autres choses, et c'est aussi bien qu'il y ait des, sans qu'on force les gens à penser d'une certaine façon, qu'on ait chacun la liberté de respecter un code ou de s'en affranchir, pourvu qu'on n'ait pas embêté les autres quoi, sur le système à eux, quoi.
Je fais une petite parenthèse, parce que peut-être que pendant l'enregistrement, vous entendez peut-être des bruits d'aspirateur. Du coup, on n'est pas chez moi. On est dans le restaurant chez Louise, qui est à Antibes. Il est 10 heures du matin et on fait... on fait il y a la femme de ménage qui fait le ménage à côté. Alors évidemment, je vais essayer de trouver des moyens pour réduire le bruit. C'est pas gagné, je suis pas très très fort dans le montage, mais voilà. Donc ça, c'est pour la petite histoire de l'interview.
Là, ce que tu peux faire, c'est juste me faire un blanc. Donc, comme ça, t'as le fond et tu pourras le soustraire.
Je vais essayer alors un petit peu si j'espère en tout cas à y arriver en tout cas voilà. Donc c'est pour la petite histoire voilà comme ça mettra un peu de couleur aux autres podcasts qui vont être vachement plus silencieux en comparaison. Quelle est la réalisation dont tu es le plus fier jusqu'à présent?
En impro, le spectacle.
Artistiquement.
Artistiquement,
Ouais.
pardon. Alors, artistiquement, la réalisation dont je suis le plus fier,
Parce que
c'est
l'artistique, c'est assez vaste, en fait, sur le coup, et ça, pour moi, ça recoupe pas mal de rôles en général, et sur tous les rôles que tu as eus, parce que tu nous as parlé un petit peu de toutes tes casquettes, et de ta définition de l'artiste, en fait, qui peut être aussi sur tous les rôles que tu engages, et donc, en tant qu'artiste, et sur tous les rôles que tu as eus en même temps, quelle est ta réaction sur laquelle tu es la plus fière?
Le plus fier, ça a été l'animation d'un atelier qui alors j'ai entraîné quelques ligues à Bordeaux, une en particulier qui s'appelait Folabi, qui était une réunion de bienfaiteurs en quelque sorte. Le projet, c'était, j'avais vraiment à ce moment-là la sensation, lorsque je transmettais l'impro et ses valeurs, bah, je permettais à des gens je sais pas, de retrouver un peu de liberté, de souplesse, de légèreté dans leur vie.
Qu'est-ce qu'elle avait de particulier cette ligue en fait
Et
par rapport à
ben,
d'autres ligues amateurs qui existent
c'était le principe de fonctionnement, c'est-à-dire c'était un engagement dans lequel moi je leur donnais 2 heures de mon temps par semaine pour leur transmettre l'impro, cette légèreté, cette liberté-là. Et la contrepartie, puisque c'était que eux, ils s'engagent à donner 2 heures de leur temps pour faire un truc qui, à leur sens, rendait le monde meilleur. Voilà. Donc j'avais un levier de 1 à 14, parce qu'on était 14 dans cette truc. Et en fait, c'est ce dont je suis vraiment content parce que c'est
Ça change le principe.
et bah, après ça marche pas.
Alors,
Ça marche pas.
qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a pas fonctionné?
Ben, ce qui a fonctionné, c'était que pour les règles du jeu, c'était ça. C'est, je vous donne 2 heures de mon temps pour faire quelque chose qui pour moi est important. Vous allez donner 2 heures de votre temps en moyenne, hein. Ben,
Excuse-moi.
vas-y. Vous allez donner 2 heures de votre temps à vous pour faire quelque chose qui ne
Alors,
sera
passez là, attends, donc,
pas. Ça.
ouais, je sais, on est pas allé en vouloir, pas de soucis, mais ça, si on peut, ça me fera moins de son à soustraire après.
Donc, cette ligue, il fallait nous. Je donne 2 heures de mon temps, vous donnez 2 heures de votre temps. Et en fait, ça ne devenait payant que si vous étiez à 100. En fait, l'atelier, si tu viens, c'est bien. Si t'es pas là, c'est 10 balles. Comme ça, en fait, 10 euros l'atelier, ça fait si tu es absent à tout, ça fait l'équivalent d'une cotisation à l'année pour un truc que t'as pas payé. C'est dommage. Et ben, il n'y a jamais eu d'absent sur un an. Et un levier de 1 à 14 sur les activités qui, voilà, il y en avait un notamment, il avait ultra peur des aiguilles, et son défi, c'était d'aller donner son sang. C'était ça le deal, quoi. Mais chacun avait, dans son système, quelque chose à faire, une peur à dépasser ou quelque chose à donner, et c'était ça le deal. Et donc, ça a duré quelques années, cette affaire. Mais voilà, c'est la réalisation dont je suis le plus fier. Et localement, momentanément, ça.
Du coup, en fait, il y a 14 personnes qui se sont mis à faire des trucs bien pour
Leur sens, hein. Si ça se trouve, parce que je
Ah.
ne faisais pas de contrôle.
Ah.
Le but pour moi, c'était pas de, pour rester vraiment dans cette philosophie-là, c'était pas un système contre. Hein. Tu prenais cet engagement-là, c'était toi, face à toi-même, quoi. Si tu le respectais pas, j'allais pas piquer le truc. Mais voilà, c'était ça l'outil.
D'accord. Ah, c'est chouette ça. Et du coup, comment c'était fait? Enfin, du coup, c'était en associatif, c'est ça?
Oui.
D'accord. Il y a une association donc qui finançait ça quelque part?
Ah ben, et en fait, il payait. Le seul truc pour les assurances, c'était de payer la cotise à l'année qui vient de l'ordre de 10 euros. Mais après, c'est que tu payes aux ateliers toutes les semaines, quoi.
Non, c'est un chouette modèle en même temps. Et qu'est-ce qui a pas fonctionné au final?
Alors, en fait, ce qui fonctionne pas, c'est que ces systèmes-là ont une grosse inertie. Il y a un film qui existe qui s'appelle Un monde parfait ou Un monde meilleur, avec un gamin et c'est une mère célibataire, je crois, et son gamin, il a ce truc-là où il va donner un SDF, je crois, et il dit, bah toi, tu dois faire aussi une bonne action, et en fait, il fait ce calcul en disant, il suffit que une personne fasse du bien à 3 personnes, et après, en fait,
Un arbre.
ben voilà, c'est ça, tu règles tous les conflits du monde comme ça. Mais ça marche déjà pas dans le film, parce que, en fait, ça... Il y a une grosse inertie, tu ne tiens pas compte aussi de l'état du monde tel qu'il est quand tu commences à faire ce truc-là. Mais voilà, c'était une petite utopie locale qui a fonctionné localement, et en gros, ça demanderait juste qu'il y ait un peu plus de gens qui se sortent les doigts et qui prennent ce genre d'initiative. Mais bon, voilà. On peut le faire, ben, c'est tout.
D'accord. Et du coup, ça a duré combien de temps?
Pas l'année, ça, quelques années, je ne pourrais pas te dire.
D'accord, mais c'est quand même quelques années sur 3 ans, c'est pas mal, en théorie en tout cas.
Ah ben, sur le papier, c'est dingue. Et en réalité, localement, c'est ouf, parce qu'il y a vraiment des gens dont la vie a été transformée, hein, des gens qui ont changé de droit, qui ont retrouvé, je sais pas, vrai, qui ont retrouvé du sens dans une vie dans laquelle ils étaient bien, mais ils se sont dit, mais il y a quand même mieux à faire que ça, quoi.
Ça, le peut-être le plus gros changement que peut faire l'impro au final à travers ça.
Voilà pourquoi c'est ma plus belle réalisation.
D'accord. Ouais. Tu as un beau rôle aussi que tu as eu. Tu as été aussi directeur de l'Improvidence à
Oui.
Avignon. Ça a duré quelques temps.
Ouais, ça a duré quelques mois. En fait, entre le moment où je prends mes fonctions en 9 ans, et il y a eu un Covid qui m'a fait fermer en mars. Ouais, justement encore.
Et du coup, en fait, t'as pu quel type de spectacle t'as pu enfin, diffuser
Bah, l'improvidence, c'était surtout un lieu dédié aux improvisateurs locaux, dans un premier temps, et en élargissant régionalement pour produire des spectacles à la fois de qualité et puis d'avoir ce côté un petit peu rassembleur. Parce que ça, l'avantage de l'improvidence, un théâtre dédié à l'improvisation, c'est ce qu'on vient y voir, et ça, clairement un objectif de fédérer localement ou du moins d'être une figure de proue de l'improvisation locale. Et ce qui avait très bien marché, c'était que on avait des gens de Valence jusqu'à Marseille qui venaient à Avignon pour jouer. Et on était sur une belle lancée.
D'accord. Il y a eu des créations spécifiques, il y a eu
Des créations, j'ai pas forcément souvenir là, parce que les gens, les improvisatrices et improvisateurs arrivaient avec leur spectacle. Mais il y avait, si, enfin, il y a des choses qui n'avaient jamais été faites. De toute façon, on déforait complètement le sujet. Donc tout ce qui arrivait là était nécessairement nouveau, en tout cas pour ceux qui venaient le voir. Ouais, il y avait une sacrée émulation. Ça a duré, c'était trop court.
C'est un peu remuer le couteau dans la plaie au final. Qu'est-ce qui te frustre le plus dans le métier au final?
Qu'est-ce qui me frustre le plus?
Ouais.
Ah, sujet très actuel pour moi. Ce qui me frustre le plus, c'est le fait que l'impro est une discipline, est un art. L'impro est un art. Et ce qui me frustre le plus, c'est qu'aujourd'hui, pour reprendre une expression de mon ami Charles-Étienne Martel, bisous si tu m'entends, copain. L'impro, c'est une république de pirates. Chacun est libre de faire ce qu'il veut quand il veut, aller sur ton navire, et si t'as envie d'aller là, tu peux, et ni personne ne t'en empêche. Ce qui est à la fois une force et une faiblesse. C'est une force parce que, une grosse liberté, une grande liberté. Faiblesse parce que, à un moment donné, il sera tout de même nécessaire qu'on se mette d'accord pour avoir une forme de reconnaissance. Pas surtout, il s'agit pas de dire d'avoir une définition ultra commune ou de partager de façon uniforme et ça c'est pas ça l'objet. Mais de la même façon qu'on arrive à raconter des histoires en impro avec des gens qu'on connaît pas et qu'on est capable de créer dans l'instant une histoire qui va prendre tous les deux du plaisir à jouer et que le public va prendre du plaisir à regarder. Cette histoire-là, elle n'est pas écrite à l'avance, et c'est pas mon histoire que je vais t'imposer, c'est pas ton histoire que tu vas m'imposer, mais c'est quelque chose qu'on va co-construire. Et il manque cette co-construction de ce que c'est que l'impro en France pour avoir un peu plus de crédit auprès à la fois des programmateurs dans les salles et des instances type DRAC notamment, pour faire reconnaître ce que c'est l'impro.
Est-ce qu'il n'y a pas des cours de l'improvisia, je ne me
Si,
rappelle plus le nom,
Improsia.
Improsia, oui.
Il y a un projet. Avec Impro France, on est sur un projet comme ça déjà de recensement pour savoir combien on est de pratiquants de l'impro. C'est une première étape. Et de savoir après, il y a une enquête qui va être lancée bientôt pour avoir dans ce paysage-là une représentation de ce que c'est que pour nous, pratiquants, l'improvisation théâtrale.
Est-ce que ça pourrait changer pour les amateurs, pour les professionnels de l'improvisation?
Ah ben, en fait, ça fait. Imagine-toi la structure que peut avoir le théâtre en tant qu'art en France. Ben, la même chose. Un accès à des salles, un accès à des financements, un accès à des résidences. Alors, il y a des choses qui commencent à émerger. Il y a des pionniers en la matière. Mais on part de loin parce que l'improvisation, aujourd'hui, ça reste comme un fourre-tout dans lequel il y a des gens qui peuvent arriver et faire n'importe quoi. Et alors, si tu veux parler de ma grosse frustration, alors, première fois que je vais le dire publiquement, en vrai, ce qui m'énerve, c'est d'entendre quand un truc est mauvais, ah, mais c'est de l'impro. Ça, faut arrêter. Parce que si tu cuisines mal, parce que tu as que de mode des restes et que c'est dégueulasse, parce que tu as mis trop de sel, tu peux pas dire, c'est de la cuisine. Ou si tu prends un instrument dont tu n'as jamais joué et que tu fais n'importe, et que tu dis, ah, c'est de la musique. Non, personne ne dit ça. Donc, quand tu fais n'importe, et que derrière tu dis, ah, c'est de l'impro, je suis désolé, tu n'as pas compris, que tu fais juste n'importe quoi. Voilà.
Ouais, c'est un petit peu à chaque fois on a tout le poids en fait de l'improvisation nationale. À chaque fois qu'un improvisateur fait du spectacle, enfin fait un spectacle, il a tout le poids de l'improvisation et il représente toute l'improvisation à lui tout seul en fait. Et s'il fait de la merde, du coup c'est toute l'improvisation qui est mal jugée, mal notée, déconsidérée.
Aujourd'hui encore, mais je serais pas si du coup autant ça, la façon dont je l'ai dit, c'est ça qui m'énerve. Autant non, je pense pas qu'on ait la charge de représenter toute l'improvisation. Mais parce qu'encore aujourd'hui, il y a des catégories dans l'impro, comme il y a des catégories de théâtre, et à un moment donné, enfin, comme il y a des catégories de spectacles vivants. Et tous les spectacles d'impro ne se valent pas parce que c'est pas la même impro. Je parlais tout à l'heure de définition technique de la quantité de choix qu'on réserve pour la dernière minute. Ben, il y a des spectacles d'impro dont le cadre, il est imposé, et donc ça, tu vas pas l'improviser. Tu vas juste improviser à l'intérieur de ce cadre. Et en fait, ben, t'as des formes d'impro. Ben, le clown, en fait, le clown, normalement, il y a pas de texte, c'est une forme improvisée. Est-ce qu'on veut le mettre sous la bannière l'improvisation théâtrale ou pas? Il a déjà sa catégorie. Mais tu peux faire du clown et c'est imposé, mais tu peux faire un match et c'est de l'impro, et tu peux faire un autre long form et c'est de l'impro, tu fais un cabaret, c'est de l'impro, mais les gens qui viennent voir ça, ils viennent pas voir le même spectacle. Tu peux faire une pièce improvisée totale, c'est de l'impro. Tu peux faire ce que font Jeanne et Julie à Paris, où voilà, il y a même pas de, enfin, on n'a pas d'impulsion du public, on arrive, on improvise, elles improvisent, c'est un petit peu leur
C'est
spectacle.
spectacle.
Et voilà. Et tu leur fais confiance sur ça parce qu'elles sont douées, talentueuses et que y a, tu vas leur faire confiance sur le fait qu'il n'y a rien d'écrit. Donc, en fait, je pense aussi il manque cette cartographie des types de spectacles d'impro pour que quelqu'un qui vienne voir un spectacle ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. T'es venu voir un spectacle, ne, t'es venu voir un spectacle improvisé, mais t'es pas venu voir l'impro avec un I majuscule.
Mais effectivement, alors du coup, il y a des façons de faire. Il faudrait voir des acteurs comme Biré Duc. Oh mon Dieu, je fais encore de la pub. Mais en tout cas, des acteurs privés, en tout cas, qui pourraient faire des sous-catégories aussi, qui permettraient d'avoir une meilleure reconnaissance.
Et oui, pour ça, il faut se mettre d'accord nous. C'est-à-dire que personne ne va
D'accord.
prendre cette initiative-là. Enfin, eux, ils vont pas le faire, c'est sûr qu'ils vont pas le faire. Donc c'est à nous, cette fameuse république de pirates. À un moment donné, il s'agit pas d'avoir un porte-parole, c'est pas, il n'y a pas d'enjeu de pouvoir là-dedans. Il y a vraiment un enjeu de reconnaissance de ce qu'on fait et de se situer dans ce paysage-là.
Mais qui peut parler? C'est improvisation en France. Qui peut parler?
Non,
C'est
non.
qui?
Alors,
Alors, parce que du coup, comme on est, il faut créer une structure, une fédération.
non. Alors, et on va dire oui. Alors, dans l'idéal, oui, parce que. Et encore non, en fait, je retire ce que je viens de dire. Il y a pas de règle. Il y a, ce qui va compter, c'est le résultat. Si à un moment donné, dans la tête des gens, c'est suffisamment clair. Et quand je dis dans la tête des gens, c'est autant les spectateurs que les instances. Si ça devient clair dans leur tête que l'improvisation, c'est un paysage multiple et que tu peux aimer le long form sans aimer le match et c'est OK, et que tu ne mets pas toutes les formes d'improvisation dans le même sac, on est sauvé en réalité. Il n'y a pas besoin de plus, il n'y a pas besoin de chef, il n'y a pas besoin de porte-parole, il y a juste besoin qu'entre nous, on ait une représentation commune. Et quand je dis représentation, c'est plus une représentation sensorielle, une image. Pas quelqu'un qui nous représente, mais que à un moment donné, si il y a une objection qui nous est faite en disant bah, moi j'ai vu ça, c'était de l'impro et c'était nul, qu'on puisse tous avoir une forme de bah, en fait, t'es venu voir un spectacle d'improvisation, et c'est comme les chasseurs, il y a des bons et
Il y
des
a des mauvais
mauvais
chasseurs,
improvisateurs.
ouais.
Le bon improvisateur, il arrive
Il
sur scène, il
improvise.
improvise et c'est
Le
bien. Le
mauvais
mauvais
improvisateur.
improvisateur,
Il
il
improvise.
improvise et c'est pas bien.
Ouais.
Mauvais improvisateur.
C'est un mauvais improvisateur, on n'a pas de doute. Moi, je me pose, enfin, c'est vrai que on en est un peu à une discipline qui est très nouvelle, enfin, qui reste nouvelle en termes, si on considère à peu près le théâtre et le temps qu'a pris le théâtre à émerger. Et c'est vrai que quand on apprend les catégories, par exemple, on les apprend, à l'école, en disant, ben, ça, c'est un drame, ça, c'est une tragédie. Et c'est vrai que moi, je me rappelle pas qui a décerné les catégories au final. On l'apprend comme ça en littérature, comme une sorte de science. Mais je pense qu'il y a quelqu'un au départ qui l'a forcément écrit, qui l'a forcément défini, qui l'a forcément. Ça a été décidé peut-être par la Comédie française ou, je sais pas, par l'Académie de littérature, je sais pas.
En fait, même dans nos représentations, je pense pas que le théâtre soit le théâtre défini aujourd'hui soit plus ancien parce que les premières formes de théâtre, il n'y avait pas d'écriture, c'était improvisé.
Tout à fait.
Ce qui veut dire que, à mon avis, l'improvisation théâtrale est plus vieille que le théâtre, au sens où tu peux l'entendre
Oui.
normé aujourd'hui.
Oui.
Et si on veut faire un parallèle avec des choses récentes en termes de création de catégories d'art, il n'y a qu'à prendre ce qu'ont fait les marionnettes, en fait. Ils ont une forme de reconnaissance, ça a été inscrit, voilà, le théâtre de marionnettes se distingue dans les formes de spectacle vivant du
Comme un
théâtre
art à part
vivant
entière.
comme un art à part entière. Comme l'impro pourrait se distinguer. Et au final, même si c'est la création d'une catégorie récente, uniquement dans une perspective de reconnaissance pour flécher des budgets, hein. On va pas se mentir, en réalité, tant que si on pouvait faire ce qu'on faisait avec le même niveau d'accès aux salles que les autres, bah, y aurait pas, on se poserait pas la question. Là, si on se pose la question, c'est pas pour convaincre les gens qu'on a raison sur une forme, une vision en particulier de l'impro, c'est juste pour dire, eh, ça vous dirait pas, les gars, qu'on ait le même accès aux salles que les autres arts? Bah si, bah, parlons, discutons entre nous, ayons une représentation commune de ce que c'est l'impro dans toute sa diversité aussi, hein, et pour pouvoir à un moment donné avoir une démarche cohérente, à défaut de fédérer, une démarche cohérente qui permet de ne pas être disqualifié par quelqu'un qui va lui dire ah ouais mais alors là ton collègue il ne dit pas la même chose, et là chut, fin de nombreux savoirs.
Effectivement. Au final, est-ce que tu as un engagement dans ton écriture, dans tes spectacles, quand tu écris est-ce qu'il y a une interligne dans toutes tes histoires, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux dénoncer ou mettre en surligner?
J'ai pas de combat pour des raisons que je pourrais développer. J'ai un leitmotiv, c'est la légèreté. C'est en tout cas, c'est dans ce paysage-là, quelqu'un qui viendra voir un spectacle, voilà, c'est la légèreté, c'est mon moteur, ce que j'ai envie de transmettre au travers d'eux. Et comme quoi, le paysage de l'impro est varié. On peut aller voir des spectacles avec de l'impro à propos.
Mais est-ce que, du coup, est-ce que des fois, on peut avoir une écriture et avoir certaines idées et malgré tout insérer ces idées-là dans ces histoires, parce que c'est compliqué. C'est compliqué. Ouais, je comprends que ce soit compliqué.
En fait, ça l'est pour moi, du fait de mon histoire, de mon passé et du fait d'être un homme blanc.
Cisgenre.
Voilà, non mais en réalité, il y a des choses sur lesquelles, en fait, je veux me mettre au service et je veux me mettre à l'écoute. Parce que c'est quelque chose que je peux écouter, mais je peux pas être porte-parole. Je suis dans la catégorie des gens qui écoutent. Voilà. Et il y a d'autres choses pour lesquelles je vais être porteur. Et si je devais être porte-bannière de quelque chose, c'est peut-être, voilà, dans les différentes catégories d'impro, des gens vont s'occuper de l'impro politique. Et moi, je peux m'occuper de l'impro légèreté, sans encore une fois, hein, il faut pas mettre tout dans l'impro légère, ça veut pas dire on fait n'importe quoi et tout est permis, quoi. L'impro légère, c'est la dimension de l'art qui va être exutoire, prendre soin des gens. Voilà.
Donc il y a une éthique quelque part.
Ça. Ouais, très bien. Et qui se ressent, je l'espère en tout cas, dans les ateliers que j'anime.
D'accord. Du coup, donc hier soir, tu as joué à l'impro club. Donc du coup, tu as fait un extrait en fait du spectacle que tu joues habituellement un peu partout en France, mais je veux dire surtout à Bordeaux en ce moment. Peut-être, je ne sais pas si au niveau de la programmation comment ça se passe. D'où il vient ce spectacle en fait? Comment c'est venu en fait?
Ce spectacle-là, il est né c'est un accident. Je devais organiser un match d'improvisation en plein mois d'août pour le championnat du monde de Molki qui était organisé à Bordeaux. Et le pote qui organisait ça et des animations le soir entre les journées de compétition. Et il me demande d'organiser un match d'impro. Je dis OK, sauf que voilà, moi je dis oui, je ne réalise pas qu'au mois d'août, il n'y aurait plus personne. Et donc, au moment où il m'appelle, il me dit, vous tournez dans l'organisation du match, il n'y a personne, mais attends, rassure-toi, je travaille sur un solo, est-ce que ça te convient? Il me fait, ouais, super, vas-y, fais ça. Et j'apprends à ce moment-là une technique de mémorisation, c'est vraiment le hasard total. Et je me dis bah très bien, en fait je vais utiliser cette technique là pour improviser une histoire, et ça a marché jusqu'à ce que après je trouve que c'est encore plus intéressant sur des conseils qu'on m'avait donné d'intégrer un musicien qui pouvait avec l'ambiance sonore me permettre d'entrer dans des dimensions un peu plus émotionnelles, Et puis après, il y a eu un, par accident aussi quelqu'un qui est arrivé sur scène quand j'étais en train de jouer, que j'ai pris en compte dans le jeu et les gens ont trouvé ça ouf. Du coup, je me suis dit, ah bah, je pourrais avoir un invité. Et puis voilà, aujourd'hui prend la forme d'un spectacle avec une comédienne ou un comédien invité, un musicien et voilà.
D'accord, ça, t'as toujours eu en fait un attrait un petit peu pour le fonctionnement en fait du cerveau. En fait, t'as vu différents éléments. En fait, qu'est-ce que d'où ça vient en fait et qu'est-ce que t'as vu en fait exactement?
Ben, disons, par rapport à dans mon parcours personnel, j'ai fait 3 ans de programmation neurolinguistique, 2 ans d'hypnose ericksonienne, 1 an d'énéagramme et de neurosémantique, et ayant le pied dedans, j'ai étudié après en autodidacte, enfin, de mon côté, beaucoup de modèles de description de la personnalité, MBTI, process communication, ce sont des choses qui me passionnent vraiment. Ne serait-ce que parce que ça permet de faire des feedbacks très 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 précis et de débloquer des situations pour personnel et dans l'impro.
D'accord. Est-ce que tu as déjà essayé d'hypnotiser des partenaires d'impro?
Non, non, mais l'hypnose, il y a l'hypnose spectacle, c'est une chose, mais il y a de l'hypnose. On est en transe hein, quand on est sur scène, d'une certaine façon, c'est-à-dire dans un état de conscience modifié. Ça veut dire que à partir de ce moment-là, si on se fait des suggestions, bah, elles ont des chances de passer. On appelle ça de l'hypnose conversationnelle.
D'accord. C'est que tu peux induire en fait des comportements à tes partenaires.
Bah, tu peux le suggérer. Après, il n'y a aucune perte d'autonomie hein, dans l'hypnose. Hein. C'est juste un niveau de confiance que tu as dans la personne qui te guide. Tu feras jamais quelque chose que tu n'as pas envie de faire fondamentalement. Juste, l'état de conscience modifié te permet d'avoir accès sans filtre à des choses que tu es capable de faire et qu'au final, te gênent pas trop.
Quel est l'élément qui te passionne le plus en fait dans tout ça? En fait, l'hypnose,
La
le
relation.
PNL, la relation.
C'est la relation.
Finalement, quelque chose de plutôt organique, de moins.
Et oui, évidemment. En fait, toutes ces surcouches un peu cérébrales, elles sont utiles pour faire des analyses a posteriori, mais on ne construit pas à partir de ça. C'est bien pour faire du feedback et se dire la prochaine fois, je fais différemment et développer du choix pour la prochaine fois. Mais au final, quand je reviens sur scène, tout redevient organique. Alors oui, et chaque fois, des fois, parfois, il y a des manières de réfléchir ou de se juger et on va les récupérer par réflexe sur scène. Mais la finalité, c'est plutôt de travailler ça dans des périodes de stage et d'atelier. Parce que là, il n'y a pas de public. Donc, plantons-nous au maximum et essayons des choses dans les périodes de stage et d'atelier. Il n'y a aucun enjeu de réussite à ce moment-là, si ce n'est explorer, trouver des nouveaux potentiels, explorer des nouvelles compétences. Et après, quand tu es sur scène, tu fais confiance au fait que ce que tu as appris dans ton atelier, si c'est opportun, ça va ressortir au bon moment.
D'accord. Donc du coup en fait, c'est quoi la technique en fait pour apprendre 20 mots? Parce que tu sais, ben, moi ça j'en ai pas dormi de la nuit parce que tu vois, je suis improvisateur, je suis incapable de retenir une ligne de texte en fait. Et je crois qu'on est beaucoup dans ce cas-là en improvisation, c'est-à-dire que on est incapable de retenir quoi que ce soit en fait. Alors évidemment, tu peux garder ton secret si tu me dis c'est top secret. Mais du coup, comment on fait? Parce que du coup, voilà, moi ça me stresse en fait, juste comme ça. Merde, 20 mots à retenir, j'y arriverai pas.
Ben,
Ou même plus encore, peut-être, je sais pas.
en réalité, si tu es tout à fait capable, le secret n'en est pas un, ça s'appelle une table de rappel. Là où après j'ai ma tambouille, c'est que c'est une table de rappel qui est complètement personnalisée et qui est adaptée pour improviser à partir de cette table de rappel. Mais c'est tout. Après, si vous voulez avoir le meilleur tuto disponible sur YouTube sur cette question-là, allez voir la chaîne de Fabien Olicard qui explique ce que c'est qu'une table de rappel. Et après, voilà. Enfin, reste que pour des improvisateurs qui aiment bien être dans l'organique sur scène, avoir cette connexion-là et avoir à réfléchir à des choses, ça leur semble une montagne. C'est juste parce que vous n'avez pas l'habitude de le faire. Après.
C'est une sorte de gymnastique, en fait, un petit peu comme la danse, en disant, ouais, mais il faut compter les temps, et puis en même temps, il faut penser aux pieds, il faut penser aux mains, et finalement, avec l'entraînement.
Bah exactement. Au début, tu es obligé d'y penser pour le faire. C'est Nabla, il en parle dans son bouquin, il en parle de ce système d'Abraham Maslow qui dit que quand tu apprends quelque chose, tu passes par 4 étapes. Au début, tu sais pas ce que tu sais pas. Tu es inconsciemment incompétent. Après, on te donne l'information, mais c'est pas pour autant que tu sais faire. Donc, tu es consciemment incompétent. Ensuite, à force de pratique, tu es capable de le faire, mais tu es obligé d'y penser pour le faire. Donc, tu es consciemment compétent. jusqu'à ce que, ultimement, tu ne sois plus obligé d'y penser pour le faire. Donc, tu viens inconsciemment compétent. Et ben, ces étapes-là, tu peux pas, comme, t'apprends à jouer d'un instrument, à danser, quoi. Au début, tu comptes les temps. Mais comme quand tu montes un mur, il te faut un échafaudage. À la fin, t'enlèves l'échafaudage et t'as un beau mur et on va te demander, ah, comment tu fais pour faire un mur comme ça? Bah, j'ai pris un échafaudage.
Bah, mais ça, comme ça ressemble à une sorte d'effort un peu musculaire, en fait. Du coup, quand on voit des bodybuilders et que on est trop fringalé, on se dit, mais j'arriverai jamais à cette taille-là, c'est pas possible. Et puis finalement, bon, à force d'entraînement, peut-être avec les années, c'est
le temps. Le temps et la pratique.
Le temps et la pratique, tout à fait. Mais du coup, tu formes à ça, tu donnes des formations?
Ouais. Ben oui, à qui veut, en fait, cette technique, elle a rien de secret. Par contre, c'est sûr qu'il faut la mettre en pratique et que c'est toujours plus intéressant d'avoir quelqu'un qui le fait pour t'éviter certains écueils ou aller. En gros, les gens aujourd'hui apprendraient plus vite que moi à faire ce que je sais faire, parce que moi, je suis tombé dans tout un tas de pièges que je peux identifier maintenant et dont je peux faire profiter ceux qui ont envie d'apprendre à faire. Mais oui, ceci est un appel. Si vous avez envie d'apprendre cette technique, on peut organiser un stage. Je vous apprends la technique et mon plus grand plaisir, ce serait que vous m'invitiez en tant que comédien invité. Et c'est pas moi qui mémorise.
Ça fait des vacances, en fait. Pour une fois, c'est vous qui remémorisez le truc, et puis,
Je peux ça, la peine
m'aime aussi. Je vais poser une question. Moi, j'aime bien, c'est une question un peu classique qu'on retrouve dans tous les podcasts, d'impro, qui prend différentes formes, en fait. Mais, une des formes de cette question, c'est, je suis producteur, je te file une grosse mallette de blé, et je te dis, vas-y, crée. Tu fais quoi?
Je fais quoi? J'organise un festival d'improvisation.
Illimité le crédit, évidemment.
Ah oui, à l'Olympia. On prend l'Olympia et on fait sur autant de jours que nécessaire pour avoir une vision globale des différentes formes d'impro. On fait un spectacle de type comédie musicale improvisée. Un spectacle longue forme improvisé, un spectacle, un cabaret, un match d'impro, un représentant de sa catégorie, on va dire sélectionné pour la qualité de des comédiennes et des comédiens, et on met un gros coup de projecteur sur l'impro.
D'accord.
Et après, ça. Puisqu'on a budget limité, on part en tournée.
D'accord. Ça, en commençant par Tahiti.
Ah mais évidemment.
Ça peut être pas mal. Du coup, quelle est la question que voudrais que tu aurais voulu qu'on te pose le plus souvent, en fait, ou quelle est la question que tu aurais voulu qu'on te pose à cette interview à tout prix?
Là.
Ouais.
En fait, j'aurais pas répondu ça parce que j'avais pas envie de m'énerver, mais tu l'as posé, et je me suis énervé. Cette question sur...
En même temps, s'il n'y a pas des canaux pour s'énerver, je vois pas où on pourrait s'énerver.
Ouais, mais là, sur cette question de, faut arrêter de dire, que les trucs mauvais, c'est mauvais parce que c'est bien. Ça, cette question-là, vous posez-la-moi autant que tu veux, j'ai envie de vous dire, on dit ça. L'impro, c'est beau. On prend des risques, certes, mais quand vous allez voir des bonnes improvisatrices, bons improvisateurs, au pire, c'est bien. Et on se donne la chance, parce que c'est le risque chance, hein, anglo-saxon contre les Européens du continentaux là. On parle de chance et je préfère ça. Si on se donne la chance de toucher un état de grâce, mais c'est pas on prend le risque qu'il soit pitoyable. S'il y a des choses pitoyables, c'est pitoyable. Enfin, ça se jette. Mais les bons spectacles d'impro, pire, c'est bien. Voilà, c'est ça. Mais et je veux qu'on arrête de dire c'était nul. Ouais, mais c'était non, c'était nul. Merci de m'avoir posé cette question.
Bon ben c'est cool alors, je pense. Écoute, je crois que ça se termine pour notre entretien. Je pense que voilà. Bah écoute, c'était un grand bonheur de t'avoir en interview,
Merci d'avoir écouté.
et puis de t'avoir eu sur scène aussi hier soir, donc aux likes. Du coup, c'est quoi ton actu prochainement en fait? Pour les gens qui peut-être qui sont à Bordeaux, qui t'écoutent, ou peut-être un peu partout en France, peut-être aussi.
Eh ben, un peu partout en France, et là, ça va donner, je joue à Royan, à côté de Bordeaux, le 10 avril.
Alors, on va mettre la date, hein, au cas où des podcasts qui s'écoutent très longtemps à l'avance. 10 avril 2024, du coup.
2024. Il va y avoir aussi le 18 mai à Caen. Caen, c'est la salle, ça commence par un S, pourquoi j'ai plus le nom, mais avec Ludo de la Somme-Macédoine, moi je vais jouer avec lui là-bas. Et puis le 16 juin, en clôture, enfin juste avant la clôture des 10 ans du festival Impro en scène, donc l'expérience inoubliable dans la grande salle du théâtre du Gymnase. Voilà, on a pu jusqu'en juin.
Eh ben, c'est super. Vous retrouverez donc du coup donc Cédric là-bas pour l'impro club. La prochaine date, ça sera le 20 avril prochain au théâtre de Laurent Barre à Joué-les-Pins. Prochain ImproCast donc le mois prochain. Et n'hésitez pas à vous reconnecter en live. En tout cas, que la personne qui était connectée jusqu'à présent se reconnecte, ça serait cool déjà. Et voilà. Je vous remercie à tous. À très bientôt. Au revoir.